mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 19 septembre. Aujourd'hui, au menu, nous allons parler des problématiques énergétiques qui se profilent en Ukraine et en Moldavie avec une alarme sonnée par l'Agence internationale de l'Europe. On va aller voir aussi ce qui s'est passé en Martinique avec des protestations contre les prix trop élevés de la vie et des nouvelles nuits de violence entre mercredi et jeudi. Une mobilisation à Montpellier contre un nouveau magasin Carrefour City, qui étend ses petites enseignes de plus en plus dans les centres-villes. On va parler d'une possible campagne d'arrachage de vignes aussi en France. Et avant tout cela, eh bien, on va s'intéresser à la grève qui est aujourd'hui menée par beaucoup de personnel de l'éducation, notamment du côté de la PJJ, la protection juridique de la jeunesse, judiciaire pardon, de la jeunesse. Car oui, aujourd'hui, c'est grève donc dans l'éducation à la PJJ, faute de budget, hein, avec des jeunes qui se sont retrouvés brutalement privés d'éducateurs, notamment à cette rentrée suite à des décisions prises pendant l'été. Cette grève a été appelée donc par une intersyndicale qui dénonce assez massivement les restrictions surprises qui ont été mises en place pendant l'été. C'était fin juillet que la Direction nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a annoncé donc le non-renouvellement d'un nombre conséquent de ses contractuels, 500 environ selon les syndicats, 239 selon le ministère de la Justice. On n'est pas d'accord sur les chiffres, visiblement il y a du flou aussi. En tout cas, ce sont des chiffres assez conséquents, quelques centaines pour cette petite administration qui regroupe en tout 9000 agents. Une administration qui se noie aujourd'hui, et donc du côté des travailleurs, mais aussi en face évidemment, ceux qui en pâtissent. Le premier, ce sont les jeunes, notamment un nombre de jeunes en attente d'un suivi qui est en train d'exploser. Cette grève unit donc à la fois les radicaux ou les réformistes, comme on pourrait dire, de la PJJ, et c'est une troisième journée de mobilisation contre un plan social qui est jugé inédit. C'est Mediapart qui nous propose une enquête en ayant été justement rencontré un éducateur sur Paris qui s'appelle Thomas Danglot. Il explique être écœuré par les restrictions qui ont été imposées à la fin juillet en surprise, je le répète, à la PJJ. C'est une branche de la justice qui est chargée notamment d'accompagner les mineurs condamnés ou qui sont en passe de l'être, qu'ils soient placés ou suivis à domicile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en milieu ouvert. Et ça concerne aussi les jeunes qui se retrouvent en milieu fermé. Dans cette administration, donc la PJJ, on tourne avec 20% de contractuels et plusieurs centaines de professionnels qui étaient censés rempiler ou signer un premier CDD ont disparu des plannings pendant l'été. En Ile-de-France, par exemple, explique l'éducateur Thomas Danglot, qui était l'ancien secrétaire régional du syndicat SNPES-FSU, on a entre 1000 et 1500 jeunes en milieu ouvert qui se retrouvent ou qui vont se retrouver sans éducateur. C'est une estimation à la louche, hein, dit-il. En l'absence, justement, le problème de transparence ministérielle, comment peut-on faire comprendre au grand public l'ampleur des dégâts qui sont occasionnés au creux du mois d'août? D'autant qu'au printemps, Gabriel Attal avait plutôt promis des grands moyens pour juguler la violence des mineurs, notamment après les révoltes urbaines qui avaient été déclenchées suite à la mort de Naël à Nanterre en juin 2023. Pour les professionnels qui se sont donc retrouvés du jour au lendemain sur la touche, le choc est dur à encaisser, mais les adolescents et adolescentes que la PJJ a pour mission de sortir de l'ornière, eux aussi risquent de payer cash cette période complexe qui est en lien avec la situation budgétaire nationale. Ça, ce sont les mots servis par la patronne de la PJJ, Caroline Nissan, dans le mail qu'elle a rédigé donc à tous ses agents le 6 septembre. Si on reste dans l'unité parisienne de Thomas Danglot, donc, a rencontré le journaliste de Mediapart, où sont suivis 175 à 200 jeunes, par exemple. Et ben, il a fallu se redispatcher, dit-il, les profils les plus compliqués. Et normalement, on est sur un chiffre de 25 jeunes par éducateur. Passé à 30 ou 33, explique-t-il, c'est enclenché une mécanique redoutable. On ne traite plus que les urgences et on stocke des situations qui se dégradent. À terme, conclut-il, on ne fait plus que réagir à des catastrophes. Et par exemple, dans son groupe sur Paris, une vingtaine d'ados n'ont été repris par personne. Donc ce sont des ados qui n'ont plus d'éducateurs. On fait donc des paris sur leur capacité à rebondir sans nous. Sauf qu'on peut se tromper, dit-il. Et rajoute-t-il, c'est sans parler des jeunes qui étaient déjà sur liste d'attente. Donc là, on parle des jeunes qui étaient suivis et qui ne le sont plus. Mais il y a tous ceux qui attendaient aussi un suivi. C'est super violent. Ce sont les mots de Maria Laxalt qui s'offusque aussi. Elle est éducatrice à Meaux. Elle est aussi représentante syndicale en Seine-et-Marne. Ces ados, dit-elle, ont déjà souvent des difficultés avec la séparation. On rappelle notamment les séparations avec la famille ou la séparation parentale. Normalement, quand on se sait sur le départ, dit-elle, on prépare le relais pour préserver le lien de confiance. Avec davantage de jeunes par agent, donc immanquablement, elle s'inquiète du temps qui va rétrécir pour pouvoir travailler la scolarité, l'insertion, etc. Et également toutes les petites actions individuelles en cas par cas qui font justement tout le travail d'un éducateur. C'est souvent avec ces adultes les seules relations apaisées que les jeunes peuvent partager puisqu'ils sont souvent en rupture avec leur famille ou avec le milieu éducatif. Suite à donc cette nouvelle réforme, ça risque d'être un psychologue qui va passer à la trappe, un partenariat qui s'éteint avec par exemple un club de foot ou une auto-école, et une colère donc pendant l'été qui s'est diffusée bien au-delà des agents de terrain syndiqués. Si on s'intéresse aussi aux centres éducatifs fermés, CEF, là on est dans des dispositifs presque carcéraux, hein. Ce sont des alternatives à la prison, ultra promues par le gouvernement, hein, qui n'a d'ailleurs cessé d'en inaugurer ces dernières années, et bien même là, on tire la langue. Des collègues contractuels ont appris qu'ils n'étaient pas renouvelés par mail, et n'ont même pas pu dire au revoir aux jeunes, explique une éducatrice qui a souhaité témoigner anonymement. Elle a, par exemple, elle, déjà connu plusieurs de ces centres éducatifs fermés, et elle insiste donc sur la nécessité d'avoir des équipes stables et soudées dans ces structures, où les adolescents, parmi les plus ancrés dans la délinquance, sont placés en général de 6 à 12 mois. Malgré l'image de gangsters qu'ils veulent parfois donner, dit-elle, ils ont besoin de figures d'attachement. Et là, on leur arrache des éducatrices en plein été, une période qui est déjà propice aux fugues. Des jeunes lui ont dit d'ailleurs se sentir abandonnés. Par exemple, tel adulte m'avait promis de faire ci, de faire ça, de monter tel projet. Selon cette éducatrice, il manquerait 3 éducateurs sur 15 en moyenne dans les centres éducatifs fermés de sa région. Pour elle, explique-t-il, ça veut dire qu'ils perdent des binômes. Par exemple, elle donne un exemple concret qu'aujourd'hui, ils ont déjà calé des camps pour le mois de février 2025. Mais vu que maintenant, il n'y a plus assez d'adultes, elle se demande bien avec qui elle va pouvoir partir. Dans cet article, on nous explique aussi que d'autres missions de la PJJ, qui sont moins connues mais tout aussi importantes pour l'avenir de ces mineurs, sont également touchées par ces mesures. Ce sont notamment le cas de ces enquêtes express qui sont réalisées sur les mineurs avant d'être présentées aux magistrats, par un espèce de petit instantané de leur situation familiale ou de leur scolarité, de leurs besoins psy ou alors d'éloignement du domicile. L'objectif de ces enquêtes express, c'est justement d'aider les magistrats à prendre les mesures d'accompagnement les plus adaptées en attendant le jugement. Car en effet, tout ça vient faire suite à un nouveau code de la justice pénale des mineurs qui s'est mis en place en 2021 et qui a remplacé la fameuse ordonnance de 45. C'est un nouveau code de justice pénale donc qui s'applique maintenant avec une procédure qui se découpe en 2 audiences. Tout d'abord, on examine la culpabilité de l'enfant par rapport à des faits qui auraient pu se faire et qui font qu'il se retrouve présenté devant la justice. Et ensuite, la sanction, elle ne sera fixée que de 6 à 9 mois plus tard suite à une mise à l'épreuve éducative dans laquelle justement la PJJ intervient à nouveau pour pouvoir aller plus loin dans les enquêtes et ou commencer à accompagner le jeune qui a commis donc cette erreur. Depuis la réforme donc d'il y a un peu plus de 2 ans, les éducateurs et éducatrices ont donc déjà le sentiment de crouler sous les rapports à rendre et de cocher des cases à la va-vite avec toutes ces évaluations qu'on leur demande de faire. Alors les restrictions de cet été, c'est le paroxysme, s'insurge notamment Christine Silva, qui est la représentante aussi au SNPES FSU. Ils reviennent justement sur la politique du gouvernement, en tout cas les effets d'annonce. avec ce qui s'est dit au printemps dans la bouche de Gabriel Attal. Elle explique qu'elle n'était pas d'accord avec les pistes proposées justement par Gabriel Attal, qui étaient par exemple des comparutions immédiates dès 16 ans ou des séjours forcés de 15 jours en internat, parce que, dit-elle, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire dans notre travail. Mais au moins, on se disait, eh ben, ils vont mettre les moyens, donc l'État. Eh ben, en fait, ils en retirent. C'est comme s'ils faisaient tout après avoir mis les projecteurs sur ces jeunes pour pouvoir dire ensuite qu'ils sont incasables. C'est désespérant. C'est en effet la case prison qui semble être le seul horizon si ces mesures venaient à perdurer. Sollicité par Mediapart, d'ailleurs, le ministère de la Justice lui a contesté les chiffres qui ont été fournis par les syndicats, ce chiffre de 500 contractuels non renouvelés que je vous ai dit. Et il met de son côté 230 contrats qui seront renouvelés. Le ministère de la Justice rappelle aussi que 3 millions d'euros ont été dégelés en août en catastrophe. Un déblocage d'argent qui aurait depuis permis de renouveler certains CDD, ceux pour lesquels une annonce écrite avait été faite aux agents ou les contrats déjà envoyés. En gros, il explique que les chiffres ne vont pas baisser, mais qu'il y a une espèce de période de latence, en attendant que des personnes soient de nouveau embauchées. En tout, donc, le ministère, lui, assure avoir programmé le renouvellement de plus de 230 contrats dans les prochaines semaines, qui seront pour certains signés dès le 15 octobre. Ça laisse quand même une grosse période de 2 mois un petit peu vide. Cette perspective, eh bien, l'intersyndicale doute qu'elle se concrétise. Et par ailleurs, place Vendôme, on assume d'ailleurs que certains contrats, eux, arrivaient à échéance fin août, dont les renforts qui étaient liés aux Jeux Olympiques, je vois pas trop ce que ça a à faire là-dedans, eh bien, ils n'avaient donc pas vocation à être renouvelés. Donc ils assument quand même une bonne moitié de ces 500 contrats qui ne seront pas renouvelés. En tout cas, d'ici quelques semaines, le nouveau ou la nouvelle ministre de la Justice devrait donc recevoir sur son bureau un rapport de l'Inspection Générale de la Justice sur justement le pilotage des effectifs à la PJJ. Ce rapport a été demandé en catastrophe par Éric Dupond-Méretti avant son départ. Il est attendu aux alentours du 30 septembre. Il permettra peut-être d'y voir plus clair sur les effets de décisions qui ont été prises sous la pression des finances, donc de Bercy. Par le biais de la grève d'aujourd'hui, en tout cas l'intersyndicale, elle, demande surtout à ce que les agents soient titularisés, qu'on arrête ce système des CDD, que des moyens de ressources humaines soient concrètement mis sur la table et surtout que la discussion se fasse à armes égales, c'est-à-dire de pouvoir connaître exactement le nombre de postes à pourvoir, etc. Et donc pouvoir au moins préparer déjà les prochains mois en connaissance de cause, histoire d'avoir l'air en tout cas un petit peu crédible devant les jeunes qu'ils sont censés prendre en charge.
Oh, les rebolles, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
L'hiver arrive et le froid. Et en Ukraine et en Moldavie, ça risque d'être très difficile. C'est l'AIE qui sonne l'alarme pour essayer de sécuriser l'alimentation énergique pour cet hiver. Une dépêche AFP de ce matin. C'est l'alimentation en énergie de l'Ukraine qui constituera le plus gros défi de l'hiver. Un défi sévère à relever depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Ce sont les mots de l'Agence internationale de l'énergie qui s'alarme aujourd'hui et qui préconise, pour essayer de répondre à cette situation, 10 mesures pour aider le pays à restaurer ses infrastructures attaquées afin de faire face à l'arrivée du froid. Le système énergétique ukrainien a survécu aux 2 derniers hivers, mais cet hiver sera de loin son test le plus sévère à ce jour, a déclaré le directeur Fatih Birol, le directeur général de l'AIE, dans son rapport qui s'inquiète aussi pour la Moldavie, notamment après l'arrêt du transit du gaz russe en Ukraine annoncé pour fin 2024. Ouais, les hivers en Ukraine et en Moldavie, c'est pas comme chez nous, ça rigole pas. Après la perte de plus des 2/3 de la capacité de production d'électricité pour l'Ukraine depuis l'invasion russe, une dizaine de solutions donc sont suggérées dans ce rapport à mettre en place rapidement pour réparer ou remplacer des centrales endommagées par des attaques russes ou bien qui sont occupées par les soldats, comme par exemple la fameuse centrale nucléaire de Zaporijjia. La situation en Ukraine constitue aujourd'hui l'un des problèmes de sécurité énergétique les plus urgents du monde, alerte l'AIE. C'est une agence qui est une agence pour l'énergie des pays développés de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Dans les préconisations, il y a notamment de hâter la livraison d'équipements et de pièces détachées pour réparer des centrales endommagées ou détruites, et d'augmenter les capacités d'importation d'électricité et de gaz depuis l'Union européenne. Ce rapport souligne enfin le besoin de renforcer la sécurité physique et informatique des infrastructures en Ukraine et d'accélérer la décentralisation de la production électrique en investissant aussi dans l'efficacité énergétique. Pour la Moldavie, donc, qui est aussi nommée dans ce rapport, l'hiver pourrait être déstabilisant. Même si ce pays, lui, n'est pas exposé directement à des bombardements russes, il dépend quand même de la Russie pour 2/3 de l'approvisionnement en électricité, car c'est une centrale au gaz, hein, la plus grande qui alimente le pays. Eh bien, elle est basée dans la région séparatiste pro-russe moldave de la Transnistrie. Et c'est donc l'arrêt du transit du gaz russe via l'Ukraine au-delà du 31 décembre qui crée une incertitude pour les livraisons de gaz à cette région et pour la sécurité en électricité de tout le pays. L'Ukraine a annoncé, elle, fin août, son intention de ne pas renouveler le contrat qui la liait jusqu'au 31 décembre à la Russie pour ce transit de gaz russe vers l'Europe, avec son réseau étendu de gazoducs. Un renforcement des interconnexions avec les pays européens est essentiel pour soutenir la sécurité énergétique de la Moldavie, estime l'AIE. On part en Martinique où, après une nouvelle nuit de violence urbaine, dans un contexte de protestation contre les prix trop élevés, un couvre-feu a été décrété dès hier soir dans certains quartiers de Fort-de-France et dans la commune limitrophe du Lamentin. Le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, a annoncé donc avoir signé un arrêté de couvre-feu qui entrait en vigueur de 21h à 5h du matin dans les quartiers les plus touchés par les violences. Il sera effectif au moins jusqu'au lundi 23 septembre. Certainement, possiblement reconductible. Depuis plusieurs nuits, en effet, des violences urbaines secouent certains quartiers de Fort-de-France. C'est le chef-lieu de la Martinique, une île des Antilles françaises, où vivent environ 350 000 habitants. Dans la nuit de mardi à mercredi, un McDonald's du quartier Dillon a été incendié et des barricades ont été enflammées. Dans ce même quartier de Dillon, un hypermarché Carrefour a été envahi par une cinquantaine d'individus qui ont monté une barricade sur le parking et ont tenté de l'incendier, selon les autorités. Le grand port maritime de Martinique, par lequel traite 98% des marchandises qui entrent ou sortent de ce territoire d'outre-mer, est lui aussi visé par le mouvement de la contestation. Depuis le début du mouvement, 44 véhicules ont été incendiés, 35 locaux commerciaux privés attaqués, et les autorités ont procédé à 15 interpellations, toujours selon le préfet. 11 fonctionnaires de police ont été blessés par balles de tirs d'armes à feu et trois émeutiers ont également été blessés, dont l'un par balle. Ces tensions donc s'inscrivent dans un contexte de mouvement de contestation contre la vie chère qui a démarré au début du mois de septembre. En Martinique, d'après une étude de l'INSEE de 2022, les prix de l'alimentation, donc les prix alimentaires, sont 40% plus élevés que dans l'Hexagone. Et vous l'imaginez bien, le niveau de vie général n'est pas non plus le même que celui de l'Hexagone en ce qui concerne les revenus. On a lancé des injonctions depuis le mois de juillet, le 1er juillet précisément, envers la grande distribution, en leur demandant d'aligner leurs prix à la France hexagonale, déclaré Rodrigue Petitot, qui est dirigeant du RPPRAC, c'est le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Nous sommes français, nous avons les mêmes cartes d'identité, les mêmes amendes, les mêmes taxes, si ce n'est plus de taxes, on ne comprend pas pourquoi, au sujet de l'alimentaire, précisément, on ne pourrait pas avoir les mêmes prix. Rodrigue Petitot, qui est surnommé le R dans l'île. Ils étaient invités jeudi 12 septembre dernier à une table ronde en préfecture avec l'ensemble des acteurs de la grande distribution et les institutions, mais les représentants du RPP-RAC avaient quitté les négociations au bout de 5 minutes, puisque le préfet a refusé de retransmettre les échanges en direct sur les réseaux sociaux. Vous voulez garder ça à huis clos. L'État, les distributeurs et les collectivités ont pour objectif une baisse de 20% en moyenne du prix de 2500 produits de première nécessité. Et pour lutter contre la vie chère, la collectivité territoriale de Martinique s'est prononcée en faveur d'une suppression des taux d'octroi de mer. C'est une taxe spécifique au département d'outre-mer qui s'applique aux biens importés sur plusieurs centaines de produits.
Je fais what? D'où? Mais d'où ça sort, quoi? D'où ça sort?
Et Carrefour, justement, on va en parler encore et ça va nous ramener plus près de chez nous, à Montpellier, où des habitants se sont mobilisés contre un nouveau magasin Carrefour dans leur quartier. Depuis que le méga groupe a jeté son dévolu sur les centres-villes, en effet, il n'y a plus de place pour les alternatives, déplore-t-il. Ce reportage est dans les colonnes du journal Reporter. Et il a rencontré un des opposants, qui s'appelle David, hein, devant la devanture flambant neuve de son tout nouveau magasin, hein, Carrefour City. Encore un, soupire le manifestant, en expliquant du doigt qu'il y a d'autres supérettes du groupe qui sont situées à proximité. Hein, 1, 2, 3, 4, dit-il, à moins de 10 minutes à pied. Et encore 4 autres dans le centre-ville. Dans sa main, des tracts donc distribués aux passants, qui résument la pensée de cet événement. Carrefour partout, alternative nulle part. Comme lui, donc, ils étaient une quarantaine ce samedi matin, 14 septembre, pour protester contre l'ouverture d'un énième supermarché de la fameuse enseigne Rouge et Bleu. Les raisons pour boycotter le géant de la grande distribution Carrefour ne manquaient pas, hein, selon les manifestants. La grande distribution rémunère mal les producteurs, impose de mauvaises conditions de travail à ses salariés et aux gérants, tout ça pour maximiser ses bénéfices. Ça c'est pour la liste déjà des méfaits économiques. En mars dernier, d'ailleurs, la CFDT avait attaqué le groupe en justice en dénonçant notamment sa politique sociale. Mais il y a d'autres raisons, notamment toutes les personnes étaient venues autour d'une banderole Carrefour complice d'un génocide, hein, et plusieurs Montpelliérains étaient venus contester la stratégie de ce géant du CAC 40 dans les territoires occupés de Palestine. Ils ouvrent des magasins dans des colonies illégales. Et ils ont envoyé des colis alimentaires à l'armée israélienne, explique par exemple Enrico, qui fait partie de l'antenne locale de BDS, Boycott des investissements sanctions. Pour lui, Carrefour est donc complice d'une catastrophe humanitaire sans précédent. La campagne BDS, d'ailleurs, cible ainsi le groupe qui appartient au millionnaire Alexandre Bompard depuis plusieurs années. En plus de ces militants pro-palestiniens, nombre des habitants qui étaient attroupés devant donc les portes vitrées de ce nouveau Carrefour City n'avaient pas vraiment dedans contre l'enseigne jusqu'à tout récemment. Et c'est Louise qui l'explique. Le déclencheur de ma colère, c'est que le local repris par le groupe, donc les mètres carrés qui ont été utilisés pour ouvrir ce Carrefour City, le local aurait pu être racheté par un supermarché coopératif, un magasin en circuit court avec une visée sociale plutôt qu'une multinationale. Ça aurait été top, dit-elle. En effet, la nouvelle succursale s'est implantée en lieu et place d'un ancien Spar. Vous vous rappelez peut-être, il y a eu des déboires, ils ont été placés en redressement judiciaire. Et cet espace était convoité de longue date par l'association La Cagette. C'est un supermarché coopératif du quartier qui lui propose des produits bio, locaux et dont certains à petit prix. Une opportunité exceptionnelle de développement donc pour cette boutique solidaire qui se retrouve actuellement à l'étroit dans ses locaux. Eh bien malheureusement, le 26 juillet dernier, le tribunal de commerce a préféré l'offre du géant Carrefour à celle de cette coopérative. Une décision qui a été incompréhensible et très mal vécue donc pour nombre de sociétaires de La Cagette, puisque Carrefour proposait une reprise moins intéressante, mais promettait de reprendre 12 postes sur 18, contre 0 pour le magasin alternatif qui lui fonctionne grâce à ses sociétaires. Et peut-être que le profil sûr et sérieux, ce sont les mots des juges, eh bien, auraient rassuré les juges qui ont dû statuer justement sur ces deux offres. La stratégie du géant du commerce, en tout cas, consiste bel et bien à se déployer dans tous les centres urbains. Et c'est l'économiste Philippe Moati qui explique ces changements de stratégie. Pendant longtemps, Carrefour, qui est l'inventeur de l'hypermarché, a tout misé sur ce type de grande surface. Et au tournant des années 2000, le modèle de l'hyper a commencé à montrer des signes de faiblesse. Il fallait donc trouver de nouveaux leviers de croissance. Et c'est pourquoi ils sont revenus vers le commerce de proximité. Très vite, vous l'avez sûrement vu d'ailleurs en ville, les supérettes ont poussé comme des champignons dans les ruelles des villes, suscitant parfois des tensions, comme à Toulouse où un quartier entier s'est mobilisé depuis plus d'un an contre l'implantation d'une supérette Carrefour. Et d'ailleurs, Sylvie, qui fait partie du collectif d'opposants toulousains, explique que dans la même avenue, il y a de nombreux petits commerces qui sont installés depuis longtemps et qui jouent un rôle en tant que lieu de vie, mais aussi social, avec un lien humain très fort avec les habitants. À Paris également, en 2016, des habitants du 20e arrondissement s'étaient battus contre l'ouverture d'une grande surface et ils ont perdu. Dans la foulée, en tout cas, de cette nouvelle stratégie, Carrefour multiplie les formats pour cibler toujours plus de niches. On a Carrefour City, Carrefour Bio, Carrefour Contact et même récemment Potager City, j'imagine, pour y vendre des légumes. Et là, on ne parle que de Carrefour, mais il y a la même stratégie qui se font chez d'autres grands groupes. Hein, certains, vous avez vu aussi des Monoprix et des casinos en pagaille. Le chercheur Philippe Moati commente que justement, face à l'inflation, c'est le commerce de proximité qui a bien résisté, car dans les ménages, eh bien, on préfère fractionner leurs achats, dans les termes des économistes, c'est-à-dire faire des petites courses près de chez soi plus souvent, plutôt que de se rendre dans ces lieux de tentation que sont les hypermarchés. Il y a un autre atout supplémentaire pour le groupe Carrefour, c'est que l'écrasante majorité de ces magasins ouvrent ou sont repris sous la forme d'une location-gérance. C'est un modèle qui permet de confier la gestion du fonds de commerce à un tiers, tout en restant propriétaire. Et ainsi, depuis 2017, ça fait plus de 300 magasins qui ont été repris par des commerçants indépendants et qui sont donc sortis du groupe avec leurs 23 000 salariés. Le nouveau magasin à Montpellier n'échappera pas à la nouvelle règle. En 2021, Carrefour envisageait d'ouvrir un magasin dans un autre quartier et le maire à l'époque, Michael Delafosse, avait empêché cette installation à grand renfort de lettres et de prise de position publique. Est-ce que maintenant l'élu socialiste fera preuve de la même pugnacité ? Nous l'attendons au tournant, en tout cas. C'est ce qu'indique la conseillère municipale Alenka Doulin, qui était présente à la manif ce samedi dernier. Et pour ce qui est de l'alternative La Cagette, elle reste toujours en recherche d'un local qui lui permettrait de poursuivre son développement. Ce supermarché à but non lucratif compte près de 5000 sociétaires et ambitionne d'en accueillir 1000 de plus d'ici 2027.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Et si, les enfants, c'est comme ça qu'on va changer le monde. On termine ces nouvelles du monde, puisque c'est la période des vendanges, avec cette petite brève qui est tombée aussi ce matin. On a appris que le gouvernement français donc, avait soumis à l'approbation de Bruxelles, donc de l'Union européenne, une campagne d'arrachage de vignes pour tenter de résorber la surproduction de vin en France. Cette campagne serait financée par une enveloppe de 120 millions d'euros. C'est le ministère de l'Agriculture qui l'a annoncé hier. La France a notifié ce jour à la Commission un dispositif de réduction définitive du potentiel viticole, écrivait donc le ministère dans son communiqué. Il explique que ce plan est de premier volet de réponse aux difficultés structurelles qui sont rencontrées par le secteur, notamment à cause de la baisse de la consommation. Le dispositif en question propose de financer donc l'arrachage de vignes pour pérenniser l'activité des exploitations viticoles, avec un montant qui pourrait atteindre 4000 euros par hectare pour une enveloppe donc d'environ 120 millions d'euros. Ce montant moyen permettrait en gros de compenser l'arrachage d'au moins 30 000 hectares de vignes, sur en tout 800 000 hectares de vignes qui sont recensées en France en 2020. Ça reste pour l'instant assez anecdotique, mais ça peut être nécessaire pour certains exploitants qui ont trop de surface et qui se retrouvent donc un petit peu piégés par la surproduction. Fin janvier, un budget de 150 millions d'euros sur 2 ans, qui pourrait concerner jusqu'à 100 000 hectares, avait été évoqué par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Et au même moment, le gouvernement portait à 80 millions d'euros le fonds d'urgence pour les viticulteurs des régions en crise. Ça va du Bordelais au sud de la vallée du Rhône en passant par le Languedoc. Ce nouveau plan d'arrachage doit encore être validé par la Commission européenne avant que les fonds ne puissent être débloqués par l'établissement public qui s'appelle France Agrimaire. Cette aide serait donc donnée aux agriculteurs qui abandonnent sur les surfaces ainsi arrachées la production d'autorisation de replantation et qui renoncent également à mobiliser ou à demander pendant les 6 années à venir des autorisations de plantation nouvelles. Pas question d'arracher, de prendre les sous et de replanter derrière, c'est vraiment des terres qui changent complètement de destination. Pour ce qui est du contexte, on est entre désamour pour le vin rouge, les difficultés d'exportation vers la Chine et les États-Unis, le Covid et l'inflation, des difficultés économiques qui se sont donc empilées dans certains bassins de production viticole. La France reste pour le moment le premier producteur mondial de vin, avec 48 millions d'hectolitres pour 2023, et connaît un gros déséquilibre entre l'offre et la demande. Par exemple, pour le Bordelais, qui est le premier vignoble AOC de France avec plus de 100 000 hectares, la Commission européenne avait déjà validé en novembre 2023 un plan d'arrachage sanitaire de 8 000 hectares qui pourrait donc compter 1500 hectares supplémentaires d'ici l'hiver prochain. Voilà, ça bouge donc du côté du vin et on en profite pour souhaiter bonne vendange à tous ceux qui viennent de les finir ou qui sont dedans. « pour la cuvée de cette rentrée de l'année 2024-2025. Les nouvelles du monde, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.